France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. C'est Albi dans le Tarn qui va nous occuper dans cette deuxième partie de la semaine, en commençant aujourd'hui, parce qu'on en reparlera demain, par une société coopérative d'intérêt collectif qui est vite montée en efficacité. Elle s'appelle Terre citoyenne albigeoise, au pluriel. Ce collectif vient d'acquérir 16 hectares de terre aux portes de la cité et devrait bientôt les proposer à des candidats à la production maraîchère. Le deuxième sujet de ces carnets est d'ampleur et concerne le monde entier en proie à une surabondance de déchets plastiques dont nous dénonçons sans cesse les effets sur la faune, la flore et la biodiversité. Dénoncer, c'est une chose, agir, c'est encore mieux, et c'est là que la société Earthwake nous intéresse par la transformation des déchets plastiques et en particulier des déchets plastiques non recyclables qui sont très nombreux. Et donc la transformation de ces déchets, figurez-vous, en énergie. L'invention que nous vous présenterons est de taille et on se met à rêver qu'un tel processus élaboré en France par une entreprise française pourrait peut-être éviter le naufrage de la planète. On peut rêver, surtout si on y croit.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Marie Soubias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la SIC, c'est une jeune SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, Terre Citoyenne Albigeoise, née en 2019, mais qui était déjà en gestation à Albi en 2017. Que s'est-il passé?
À la base, en fait, c'est une association qui a été montée par des citoyennes et des citoyens. On était plutôt actifs dans le milieu des AMAP et des villes en transition. Et puis, on a monté cette association. Et puis, grâce à une opportunité, en fait, autour d'Albi, de racheter des terres agricoles, eh ben, on a monté la société pour pouvoir le faire avec des parts citoyennes.
Et en fait, Marie, c'est le retour du maraîchage à Albi.
C'est ça, exactement. En fait, historiquement, il y avait une plaine maraîchère à Lescure d'Albigeois. Donc c'est une commune limitrophe de Albi et très très proche. Et il y avait beaucoup de maraîchers qui avaient arrêté. Donc là, il n'y en avait plus que 5 pour une trentaine avant.
Oui.
Et on a racheté les terres pour pouvoir installer d'autres maraîchers.
Donc le principe, c'était de créer une société coopérative d'intérêt collectif de façon à lancer une campagne de souscription, ce qui a été le cas en 2020, qui a bien fonctionné, qui vous a permis de recueillir un beau capital.
Exactement, oui. 200 000 euros à peu près.
Et avec cela, vous avez acheté 16 hectares de terre?
Oui, alors on a en partie acheté. Voilà, on va aussi investir pour du matériel et puis un petit peu pour les terres, pour commencer à les préparer. Mais en grande partie pour acheter les terres, voilà.
Et ensuite, donc, que va-t-il se passer?
On va lancer un appel à la candidature pour que ces personnes en recherche de foncier puissent venir s'installer. L'idée serait qu'on garde un intérêt collectif, donc pouvoir travailler à plusieurs, en fait. Donc, plusieurs personnes à installer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que en attendant que des maraîchers, des maraîchères s'installent, vous vous êtes dit, on ne peut pas laisser ces terres en jachère, donc on peut déjà les cultiver.
Exactement. C'était important pour nous parce que en fait, on a pris ces terres à un agriculteur qui était déjà exploitant sur les terres. On ne voulait pas du tout les laisser partir à l'abandon. Donc on a monté une autre structure juridique, une SCEA, pour pouvoir justement commencer à travailler un petit peu les terres, les préparer avant l'arrivée des maraîchers maraîchères.
Oui. SCEA, c'est une société civile d'exploitation agricole.
C'est ça.
La conversion des terres est en cours, en bio.
Oui, tout à fait. Grâce justement à ce travail-là.
Oui. Quand allez-vous recevoir, comment allez-vous d'ailleurs procéder pour recevoir les premiers maraîchers?
En fait, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'ils puissent s'investir dans notre projet collectif. Donc nous, avant tout, c'était de permettre aux citoyennes et citoyens de se réapproprier leur alimentation. Donc on a vraiment cette volonté-là. Et donc en fait, on va inviter ces porteurs de projets ou porteuses de projets à participer avec nous à cette intention. Donc ils vont pouvoir candidater via un dossier de candidature que nous avons créé. Nous allons les faire rentrer un peu dans le processus de travail, de réunion, etc. Et puis à partir de là, via une location, donc un bail rural, ils pourront s'installer et travailler sur ces terres.
Vous avez des bâtiments sur place?
Alors justement, une partie des fonds ont servi à faire des investissements en bâtiments ou en matériel ou en irrigation pour pouvoir abreuver. On a 16 hectares en tout là sur la plaine maraîchère, donc voilà, on va avoir un bâtiment un peu central pour pouvoir mutualiser.
Où ira cette production ?
Alors nous, on est fervents défenseurs de l'alimentation en local, donc en fait on va demander à ce que les personnes qui s'installent puissent vendre en local. Après, on sait bien à quel point ça peut être compliqué, donc on a l'intention un peu de participer à ça, d'aider si on peut, avec nos moyens bénévoles.
Alors ce que j'aime bien, c'est que au-delà de ces cultures et des chantiers participatifs qui vont permettre d'élaborer définitivement le lieu, vous travaillez sur la mémoire du maraîchage.
Oui, tout à fait. Moi, ça, c'est lié en fait à l'historique du lieu, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'être à un endroit où les personnes qui étaient autrefois maraîchères et maraîchers sont restées. On les appelait les jardiniers et on a pu les contacter. Donc, c'est des personnes qui sont assez âgées maintenant et on a réussi à faire des petites interviews et on a notamment voilà une exposition enregistrée.
Formidable. C'est vraiment une très bonne idée. Et une proposition complète. Le site, c'est Terre Citoyenne. Alors, tout est au pluriel, évidemment, terrecitoyenne.org. Et comme nous sommes au premier jour de 2022, je souhaite une belle année aux Terres Citoyennes albigeoises.
Bravo. Merci beaucoup. Au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
Peut-être un jour allons-nous enfin à nouveau gagner le Tour de France, parce que vu le nombre de personnes qui décident de se lancer dans un Tour de France, d'Europe, à la rencontre des innovations, je me dis qu'il y a de plus en plus de monde, de prétendants, on va peut-être y arriver. Et en catégorie, donc, je prends mon vélo pour aller sobrement vers les personnes qui bâtissent une société plus responsable. J'ai cette fois le cas de Jérémy Stadler à vous soumettre. Ce jeune documentariste montpelliérain avait déjà réalisé un film parmi d'autres qui mettait en avant ces héros ordinaires qui agissent au bénéfice d'un meilleur cadre de vie. Ça s'appelait Le Grand Saphir et le film donnait à voir les éboueurs de l'ombre, ceux qui nettoient les rues, qui sortent les poubelles jetées à la mer ou qui vident les fossés de la ferraille qui rouille sur place. Pour sa nouvelle réalisation, Jérémy a choisi donc le vélo et un itinéraire de 2000 km. La série filmée s'appellera « Ordinaire ». Comme les personnes rencontrées, se déclinera en 5 portraits, 5 documentaires. Il y aura par exemple Tom, un surfeur collecteur des plombs de pêche abandonnés sur les côtes. En un an, Tom en a collecté plus de 600 kilos en allant les décrocher sur les rochers où la plupart ont trouvé refuge. Il y aura aussi Marion, passé maître dans l'art de détourner les masques perdus de la pandémie pour en faire des pièces de vêtements et des chapeaux. Et quand on demande à Jérémy Stadler pourquoi le vélo, lui qui n'en a jamais fait, sa réponse ne tarde pas. Je cite, chaque année en France, l'industrie audiovisuelle libérerait plus d'un million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 410 000 allers-retours Paris-New York en avion. J'ai donc décidé de partir sur un vélo d'occasion, monté avec des pièces de récup. Il me reste à assumer les 40 kilos de matos sur le dos, ce qu'il m'est difficile de rogner sur l'esthétique de l'image. Alors si vous voulez connaître le travail de Jérémy, vous allez trouver à nos pages d'émission, franceinter.fr, à notre page Facebook, le lien avec son site et le répertoire de ses films et celui qui est en cours de tournage ordinaire, jérémystadler.fr. François Danel, bonjour.
Bonjour.
Depuis un an, ça bouillonne chez nous en disant « il faudrait quand même qu'on appelle Osweek ». Avec vous, on va parler de cette start-up qui était fondée d'ailleurs autour de Samuel Le Bihan. Tiens donc.
Eh oui, parce que il se trouve qu'avec Samuel Le Bihan, on s'est rencontrés dans l'humanitaire. Quand j'étais directeur général d'Action contre la faim, il était dans notre conseil d'administration. Et du coup, on a sympathisé. Et quand on a eu quitté cette grande organisation, on a décidé de s'engager pour l'environnement.
On en a besoin. Toutes les idées sont bonnes à prendre. La vôtre est très intéressante. Alors, elle mérite des explications. Elle risque d'obtenir et de recevoir quelques critiques. C'est la gestion des déchets plastiques, ça on le sait. Swake, c'est un processus grâce à une machine, chrysalis, une pyrolyse. La pyrolyse permet de faire fondre et dissoudre les molécules de plastique et de transformer en carburant. Essence ou diesel, mais on va dire, bah justement, critique, vous dépolluez, formidable, mais vous repolluez avec l'essence et le diesel.
Non, mais pas du tout, il faut remettre les choses dans leur contexte. En fait, nous, notre diagnostic, il est venu de nos missions humanitaires en Afrique, en Asie, en Haïti, on a vu les dégâts des déchets plastiques qui inondent les populations les plus fragiles, qui créent de la surmortalité pour le bétail. Et en même temps, ces populations, elles ont pas accès à l'énergie. Et donc, nous, notre idée, c'est de donner de la valeur au plastique pour que les gens les ramassent, y compris dans le secteur informel, et que ce déchet plastique ne rejoigne pas les rivières et les océans. C'est sur Terre qu'il faut agir avant qu'il soit trop tard. Et du coup, cette technologie, elle permet de faire trois choses. Elle permet de dépolluer, elle permet d'apporter de l'énergie et elle permet de créer des emplois.
Le principe de la pyrolyse, c'est compliqué à mettre en route?
La pyrolyse, c'est connu depuis longtemps par les ingénieurs, mais notre inventeur Christopher Cost, il a vraiment réussi à mettre au point une technologie qui permet d'obtenir un carburant qu'on va pouvoir utiliser quasi directement dans des moteurs. Et ça va permettre un autre point qui est déterminant, qui est de recycler des plastiques qui sont très difficiles à recycler autrement, comme par exemple les films plastiques, les sachets qui sont un peu salis. Avec cette technologie de la pyrolyse, on peut les retraiter, alors que quand on refait du plastique avec du plastique, c'est beaucoup plus difficile.
Oui, puisque ce qui est pratique, c'est que la machine s'auto-alimente elle-même.
Exactement, elle est de surcroît autonome en énergie, ce qui permet de la positionner sur une île, y compris les îles françaises. Vous savez que par exemple à l'île de la Réunion, les sites d'enfouissement sont totalement saturés. En parallèle, l'île de la Réunion importe du carburant. Et avec ce type de technologie, on pourrait faire coup double, c'est-à-dire qu'on pourrait réduire les importations énergétiques et traiter cette pollution du plastique qui envahit y compris toutes les îles françaises.
Oui. Alors cette machine, la Chrysalis, peut transformer 40 kilos de déchets plastiques en 40 litres de carburant par cycle. Donc si je comprends bien, 1 kilo de plastique, 1 kilo de carburant.
Exactement, c'est ça le procédé. Oui. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à l'environnement, c'est que la manière de produire ce carburant de synthèse émet de l'ordre de 80% de moins de gaz à effet de serre que du diesel fossile. Or, on va encore, même si on passe beaucoup à l'électrique, on va encore avoir besoin, notamment pour les bateaux ou pour des camions, on va encore avoir besoin de ce carburant diesel. Mmh. Et au lieu d'aller chercher du carburant qui a été ponctionné sous terre et qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, eh ben, on va utiliser du déchet plastique qui va donner un carburant de synthèse. Et dans la manière de produire ce carburant, on émet beaucoup, beaucoup moins de gaz à effet de serre que quand on va chercher du carburant et du pétrole sous les mers ou sous les terres.
Et François, à quoi ressemble la Chrysalis alors?
Eh ben, en fait, il y a deux générations de Chrysalis. Il y a la première qu'on a mis au point dans notre laboratoire des Alpes-Maritimes et qui est une machine qui doit faire quelques mètres cubes. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec cette machine, on a produit un carburant de synthèse qui fait fonctionner les camions de benne à ordures d'une communauté de communes de Puget-Théniers. Mmh. Et donc ça marche, c'est concret, c'est opérationnel, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours que ça se passe. Mmh. Et puis en ce moment, on a décidé de passer à l'échelle et de créer une entreprise, la start-up Earthwake Entreprise. Et là, on a décidé de passer à l'échelle l'équipement. Et plutôt que de traiter 40 kilos de déchets plastiques, on va en traiter 300 kilos par jour. Oui. Et on est en train d'élaborer ce prototype dans notre site industriel du Vaucluse.
Vous, ancien directeur donc d'Action contre la faim, vous savez mieux que nous et mieux que quiconque, les pays en voie dit de développement ont très peu de moyens. Est-ce que la Chrysalis est abordable?
Alors, la Chrysalis, ça reste un petit équipement, un investissement pour les acquéreurs. Donc, on a une vision en deux axes. L'entreprise, il faut qu'elle trouve des clients qui vont être capables d'investir dans ce type d'équipement et qui vont tout faire pour le rentabiliser. On a déjà plusieurs clients qui sont intéressés et on va en avoir des dizaines et des centaines dans les années qui viennent. Mais en parallèle de ça, notre objectif venant du monde associatif et de l'humanitaire avec Samuel Lebihan, eh bien, il est de garder la structure associative avec laquelle on avait commencé pour lever des fonds auprès de banques de développement, de mécènes, de particuliers par du crowdfunding qui vont aider à financer ce type d'équipement pour des communautés en Afrique, en Asie ou en Haïti qui ne pourraient pas se les payer.
L'adresse c'est earthwake.fr. Merci François de nous apporter de bonnes nouvelles.
Merci, au revoir.
Véronique, coordinatrice du Drive Fermier du Tarn. On revient dans notre département fil rouge de la semaine et elle nous écrit pour nous parler de ce drive qui réunit désormais une quarantaine de producteurs associatifs, des fermiers et des artisans, pour donner d'abord un ordre de grandeur de ces plateformes qui ont germé en France depuis près de 10 ans. On en compte officiellement 333. Je suis allé vérifier tout à l'heure, juste avant de vous parler, recensés sur la plateforme drivefermier.fr. C'est écrit drive trait d'union fermier au pluriel.fr. Si je vous parle de cette plateforme, c'est que c'est un, d'abord un moteur de recherche géolocalisé pour vous, si vous désirez connaître les points de commande les plus proches de chez vous. C'est ensuite un outil aussi pour les producteurs qui souhaitent créer ce type de service. Les exploitants agricoles, les producteurs fermiers peuvent ainsi obtenir des conseils et un accompagnement pour concevoir et formaliser un projet de création de vente sur Internet. En Logic Drive, comprendre les clés de la réussite de ces plateformes, construire une offre locale attractive, mettre en place une logistique appropriée, animer un collectif de producteurs et une communauté de consommateurs sur Internet. Et le Drive du Tarn, lui, donc, est né d'une initiative de la Chambre d'agriculture du département et du conseil départemental afin de soutenir les producteurs qui étaient impactés par la crise sanitaire. Les producteurs et agriculteurs du Drive sont aussi adhérents de l'association Ferme Tarnaise sur votre table. Il y a 4 points de relais ouverts pour les retraits des commandes à Albi, La Bruguière, Brins et Pamplonne. Le site drivefermiertarn.fr. Et puis juste avant de rejoindre le jeu, la semaine prochaine, nous serons dans le Loiret, puis dans l'Yonne et dans la Seine-et-Marne. Alors, j'insiste pour la Seine-et-Marne. Nous prenons toujours des nouvelles et des innovations depuis ce département. Nicolas Stoufflet à Montgaillard. Le jeu des 1000 euros, c'est maintenant.